Allez, c'est parti mon Kiki, voici le magazine des déchaînés du football. Comme tous les lundis soirs, on parle foot pendant 1h30 jusqu'à 20h30. Il est 19h03, le magazine des déchaînés du football avec Pierre-Henri Dufay. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
Également avec nous Gaëtan, bonsoir monsieur Gaëtan Pinel.
Bonsoir Dominique, bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et puis derrière le pupitre technique, on retrouve Sébastien pour la régie vidéo, puisque vous pouvez voir cette émission en direct sur la page Facebook des déchaînés du football. Des fortunes diverses pour les clubs bretons que nous suivons régulièrement ce week-end. Guingamp qui n'y arrive toujours pas, match nul
à Sochaux. Guingamp est régulier, il fait toujours match nul.
Quasiment toujours match nul, enfin très souvent. Mais ce qui est embêtant avec Guingamp surtout, c'est que Guingamp ne gagne pas, ne gagne plus. Et c'est ça le plus inquiétant, parce qu'un résultat nul à Bonal, à Sochaux en soi, c'est pas un mauvais résultat. Mais dans le contexte, ce n'est pas satisfaisant ni même suffisant. Brest a été défait 2-0. Bon, c'était pas mission impossible, mais compliqué pour les Brestois qui se déplaçaient sur le Rocher. À Monaco, au stade Louis II, ils ont résisté pendant 1h15. Ils ont craqué dans le dernier quart d'heure, les Brestois. Défaite des Brestois 2-0, ça n'a rien de dramatique. Et puis la bonne nouvelle du week-end, c'est les Merlus, le football club de Lorient, qui finalement s'impose 2-1. Les Merlus qui ont retourner la situation parce qu'ils étaient menés sur leur pelouse face à Saint-Etienne. 2-1, Lorient qui sort de la zone rouge et de la zone orange. Lorient qui n'est plus relégable et qui n'est même plus barragiste.
Ça, c'est le gros coup d'hier. Hein. On l'a vécu ensemble avec en plus en fil rouge le Nîmes-Nantes. On le réécoutera d'ailleurs dans le résumé tout à l'heure. Ça a été l'après-midi parfaite pour les Merlus, mais il reste du temps encore. Nous ne sommes qu'au mois de mars. Il reste 2 mois de compétition.
11 matchs.
Oui. L'année dernière, je crois que ça avait été arrêté au bout de 27-28 matchs. Donc peut-être qu'on peut essayer de s'arrêter là. Non, je ne sais pas. Mais
là, pour l'instant, c'est bon pour les Merlus. Les Lorientais ne descendraient pas.
Non, mais voilà, il y a encore eu cette révolte des Merlus, sauvée par le banc, encore une fois, et par un Armand Lorienté, donc qui s'est mis en héros hier pour ses deux premiers buts en Ligue 1. Mais on va débuter évidemment
par Brest,
comme oui. Toujours. Première partie 29 dans ce magazine. À noter que nous aurons l'un des héros du week-end également au téléphone. Ça sera en fin d'émission, non, parce que maintenant c'est jusqu'à 20h30, mais à 19h45, plus ou moins, nous aurons le triple buteur briochin Ahmad Allé avec nous.
Saint-Brieuc qui a gagné.
Au téléphone, première victoire à l'extérieur en national pour Saint-Brieuc cette saison. Le triple buteur Ahmad Allé sera avec nous. Mais avant, donc, place à nos Brestois, Gaëtan, qui ont été à un quart d'heure d'une belle performance encore.
Oui, à un quart d'heure d'arracher un point sur la pelouse de Monaco, où ils ont été copieusement dominés, surtout en deuxième mi-temps, mais où il y a eu un excellent gardien, Gauthier Larsonneur. C'était l'information principale au coup d'envoi de ce match, le changement à nouveau de gardien. On sait que Larsonneur, bien sûr, c'est le titulaire depuis 3 ans et demi, mais qu'il avait perdu sa place il y a un petit mois maintenant, après des prestations assez peu convaincantes. Sébastien Cibois avait joué les 4 derniers matchs, 3 en championnat, 1 en Coupe de France, mais contre Lyon, catastrophe la semaine dernière. Sébastien Cibois qui avait coûté au moins un but et même un peu plus, hein. Il était impliqué sur les autres buts aussi. Allez, et il a donc perdu sa place. C'est Gauthier Larsonneur qui l'a récupéré pour ce match à Monaco. On va y revenir évidemment pendant cette partie consacrée au stade brestois. La grosse performance de Gauthier Larsonneur, c'est également à réécouter dans le résumé de ce Monaco-Brest. C'était hier sur Radio Bonheur. Avec Benoît Badiachil pour aller chercher Wissam Ben Yedder qui va s'orienter ce ballon vers l'axe. La frappe enchaînée de Wissam Ben Yedder captée sans problème. Orientation du jeu sur le côté gauche avec Sofiane Diop, Pierre Gabriel juste devant lui, Sofiane Diop le centre, pop, il y avait du monde, on réclame une main dans la surface et pénalty. Ah, le pénalty pour Monaco sur ce centre contré dans la main par la défense brestoise, centre de Caio Henrique et main de Romain Perrault à Gauthier Larsonneur, voilà, de se faire remarquer, de marquer des points, de revenir dans sa saison, de reprendre sa saison du bon goût. Larsonneur face à Ben Yedder, c'est parti et c'est arrêté par Gauthier Larsonneur. Pénalty stoppé, bloqué par le portier brestois, et bien qui là vient marquer des points clairement auprès de son équipe. C'est parti pour Fèvre, le corner prolongé, deuxième poteau, et derrière la reprise. reprise de Mounier, le ballon qui passe à côté du cadre. Attention à Ben Yedder dans la surface qui va frapper, il y a encore Arsenor. L'Arsenor qui détourne la frappe de Ben Yedder du pied gauche, un sauveur encore des Brestois. Diop qui peut centrer, c'est dégagé, la reprise d'Enrique Lamar. La barre pour Monaco, la frappe et derrière c'est l'Arsenor qui contre ce ballon avec l'aide de son défenseur. Énorme opportunité. Pour Ben Yedder qui cherche Diop. Diop à l'entrée de la surface de réparation. Sur son pied droit, la frappe de Diop. Et l'arrêt miraculeux cette fois de l'Arsenor. Il n'a même pas fait exprès. Il avait plongé à gauche. Et c'est finalement sur la droite qu'il a arrêté ce ballon avec ses jambes qui étaient restées traînées un petit peu derrière. Enrique, est-ce qu'il va centrer? Oui, c'est fait. C'est repris. Aguilar, encore l'Arsenor. Encore l'Arsenor, super héros de ce match. 0-0, 76ème, la frappe et le but cette fois. Ah, le but cette fois de Jovetic qui sera donc parvenu à tromper la vigilance de Gauthier Larsonneur. La frappe aux 20 mètres qui trouve le petit filet. Fabregas qui a pris le brassard de capitaine. Le centre, deuxième but. Deuxième but pour Monaco. Cette fois, c'en est de trop pour le Stade Brestois. Le deuxième but, il est signé Kevin Volland. On s'arrête sur ce 2-0 et malgré la prestation hors norme de l'Arsenor pendant 75 minutes, eh bien Brest doit s'incliner à Monaco.
Ouais, défaite 2-0. Bon, en même temps, c'est pas complètement illogique ce score. Hein. Monaco a vraiment fait le travail.
Oui, Monaco a copieusement dominé le match, surtout la deuxième mi-temps, hein, vous l'entendiez, il y a eu énormément de parades de Gauthier Larsonneur, 8 arrêts au total qui ont maintenu les Brestois à flot pendant 75 minutes avant que Jovetic et Voland n'offrent la victoire à Monaco dans ce match. Un match que les Brestois avaient abordé un peu comme le déplacement à Lille, souvenez-vous, il y a deux semaines, Brest était allé chercher un point chez le leader nordiste 0-0, un point en étant très recroquevillé derrière, en défendant bas, en sortant très peu de ballons. Ça a été la même chose finalement contre Lille, en concédant par contre cette fois plus d'occasions, mais dans l'approche c'était similaire à ce déplacement sur la pelouse de Lille. Écoutons le capitaine Haris Belkebla qui revient sur la préparation de ce match.
Oui, c'est à peu près la même chose. On sait qu'on joue contre une grosse équipe qui est Monaco, qui a souvent la maîtrise du ballon, etc. Donc on avait cet objectif d'être solide, parce qu'on a réussi quand même pas mal de temps dans ce match. Malheureusement, après, on se prend un but qui nous fait mal. Et voilà, après, comme j'ai dit, c'est surtout dans le jeu, je pense qu'il faudra qu'on essaie de passer un cap.
Oui, un cap à passer dans le jeu face aux grosses équipes à l'extérieur, notamment parce que on l'a vu que contre Lyon la semaine dernière à Francis Leblay, Brest dans le jeu a fait largement jeu égal, voire mieux contre Lyon, même si les Brestois s'étaient inclinés à l'arrivée. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, à Lille, à Monaco, ça a été beaucoup plus délicat à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est un manque d'audace? Est-ce que c'est aussi de par la qualité de l'adversaire? Évidemment que ça joue, hein. L'adversaire a posé beaucoup de problèmes à Brest sur ce match-là, mais on a quand même le sentiment que Brest a peut-être manqué un petit peu d'audace. C'est ce qu'explique en tout cas l'entraîneur Olivier Dalloglio.
Pour avoir un peu plus d'audace, il faut qu'on arrive comme on a fait sur un quart d'heure, 20 minutes sur la première mi-temps, sur la fin de la première mi-temps, avoir un peu plus de maîtrise technique. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à enchaîner les passes, ces circuits qu'on peut faire d'habitude. Voilà. On a été vite sous pression, on a fait beaucoup d'erreurs techniques. Enfin, on est un petit peu habitué à ça, mais je pense encore qu'il faut qu'on monte le niveau là-dessus pour pouvoir les titiller, les grosses équipes comme ça, quoi.
Ah, et la difficulté pour les Brestois, c'est de les titiller à l'extérieur notamment, parce que finalement à domicile, on disait, contre Lyon ça a bien marché, contre Lille à la maison sur la phase aller ça avait bien marché, contre Monaco aussi, mais en déplacement
c'est parce que le stade est trop petit, c'est pour ça que ça marche.
Mais c'est ce que, d'après Rudy Garcia, c'est un petit peu ça, hein, l'entraîneur lyonnais, la semaine dernière, qui critiquait un petit peu l'enceinte de Francis Leblay. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir, d'ailleurs on y reviendra peut-être sur une rubrique dans la, dans la semaine, mais c'est assez étonnant de voir cette métamorphose entre le, non seulement les résultats, mais aussi le jeu proposé à domicile et le jeu proposé à l'extérieur par les Brestois.
Mais c'était déjà le cas l'année dernière, où Brest avait, n'avait perdu que deux fois, je crois, à domicile, et n'arrivait pas beaucoup à l'extérieur. Il y a un moment où on pensait que c'était mieux. Je me souviens qu'on avait fait un petit peu le bilan des matchs à l'extérieur. Il y avait un de nos amis de Brest On Air, qui est le podcast du Stade Brestois, qui nous avait dit l'un des progrès, c'est les matchs, les prestations à l'extérieur, les résultats. C'est vrai qu'il y avait eu notamment une victoire à Metz. Metz qui est cinquième aujourd'hui du championnat, c'était pas contre n'importe qui. On se disait, voilà, ils sont plus solides. Il y avait eu la victoire à Dijon aussi en début de saison, sauf que depuis, je crois qu'il n'y a plus une seule. Il y avait eu aussi la Lyon qui venait un peu corroborer cette thèse. Mais depuis, oui, c'est.
Il
n'y
a pas eu de victoire depuis le 29 novembre à l'extérieur. À Metz, c'était celle à Metz, de 2 à 0. Depuis, match nul ou défaite, et assez régulièrement défaite quand même à l'extérieur pour les Brestois. Alors c'est dû peut-être au manque d'audace des Brestois, peut-être à cette crainte face à l'adversaire quand ils se déplacent chez un gros, mais c'est
le
aussi dû,
repères,
évidemment.
Je pense qu'à domicile, ils ont des repères aussi.
Oui, ça joue. Hein.
Dalloglio, on avait parlé il y a un ou deux mois, on lui avait posé justement la question. Il dit alors, effectivement, on ne peut pas parler de l'importance du public à domicile cette saison, mais souvent, ils font des séances de veille ou d'avant-veille de match à Francis Leblay, pour voilà, avoir plus de repères peut-être sur le jeu pour mieux se trouver. Ça marche parce que les résultats sont quand même bons globalement à Leblay, mais oui, à l'extérieur peut-être qu'il faudrait qu'ils arrivent 3 jours avant pour s'entraîner sur la pelouse de l'adversaire, mais en tout cas ça marche pas, ça
ce
marche
serait
moins.
Ce serait une possibilité, c'est vrai que ça marche moins pour l'instant, alors que c'est vrai qu'on voit que cette année il y a beaucoup d'équipes qui prennent plus de points à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de supporters, et on voit que les équipes à domicile,
il n'y a plus le 12e homme, c'est sûr.
Voilà, les équipes à domicile sont moins portées, et il y a beaucoup d'équipes qui en profitent à l'extérieur. Ce n'est pas le cas du Stade Brestois, c'est aussi dû à la qualité de l'adversaire qui, comme Lille, eh bien Monaco a mis énormément sous pression cette formation brestoise, un pressing constant, un pressing asphyxiant. C'est sur ce sur quoi est revenu Haris Belkebla.
On a subi un pressing assez constant, et je pense qu'il faut qu'on progresse au niveau de la récupération après, pour pas tout de suite la reperdre, parce qu'à cause de justement on n'arrivait pas trop à poser le jeu, et c'est ce qui nous a fait défaut aujourd'hui. Je pense que voilà, on avait cette impression d'être asphyxié, parce que dès qu'on récupérait un ballon, on n'arrivait pas à enchaîner plusieurs passes.
Ouais, mais ça a été la difficulté. Hein.
Pour les avoir fait récemment avec Lorient et Brest, Gaëtan, vous avez fait la même chose aussi dans l'autre sens, mais Lille et Monaco, j'ai l'impression que c'est les deux mêmes équipes. Peut-être plus de solidité défensive à Lille, mais oui, c'est cette manière de presser haut, d'asphyxier, c'est vraiment le mot, l'adversaire. Quand en plus, il ne passe pas à côté, parce que Lille n'est pas passé à côté à Lorient et Monaco n'est pas passé à côté contre Brest, bah là, ce sont deux équipes presque injouables.
Presque injouables, hein. Il y a une maîtrise totale. Techniquement, déjà, c'est extrêmement compliqué d'aller les titiller. Il y a ce pressing, il y a cette qualité, cette force de frappe offensive, parce que quand on voit Voland, Ben Yedder, Diop, et quand on voit surtout les entrants qui s'appellent Golovin et Jovetic, notamment du côté de Monaco, il y a évidemment de grosses équipes, de gros effectifs avec de la qualité pour aller jouer le titre. C'est ce qu'elles font d'ailleurs, ces deux équipes. Et en plus, Monaco, ce qu'on peut peut-être rajouter à leur crédit, c'est d'évoluer dans un schéma qui n'est pas évident à apprivoiser, parce que c'est un 3-4-3 qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser en Ligue 1.
Et en plus, ils ont un schéma pour défendre et un schéma pour attaquer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne sais plus dans quel ordre, mais quand ils défendent, c'est à 4, je crois, et quand ils attaquent, ils sont 3 derrière, mais du coup, ça libère 2 joueurs sur les côtés.
Exactement.
Ce qui fait qu'ils ont énormément de joueurs à attaquer.
Caio Henrique et Aguilar qui étaient sans arrêt comme des alliés, hein, finalement, les deux latéraux normalement, qui jouent donc dans ce rôle de piston. Alors ils ont même fini par une défense à 4, hein, à l'arrivée, les Monégasques, avec Djibril Sidibé qui est entré vraiment en position de latéral droit, mais le mal était fait pour les Brestois, parce qu'il y avait déjà ce score de 1-0 puis de 2-0 dans la foulée, malgré l'excellente prestation de Gauthier Larsonneur pour son retour retour donc dans le but après 4 matchs d'absence, 4 matchs où il était sur le banc parce que ses prestations, c'est vrai, cette saison, elle n'était pas si bonne que ça. On l'a pas vu, Pierre, cette saison rapporter des points finalement au Stade Brestois.
C'est vrai que on avait beaucoup entendu parler de l'Arseneur, même quand il était en Ligue 2, cet international espoir français. Et c'est vrai que bon, on suivait pas autant Brest l'année dernière. Et moi, c'était une de mes curiosités cette année de voir l'impact de l'Arseneur dans cette équipe. Et je me disais bon, bah il est,
on
il
attend,
est,
on restait
il est pas
sur
mal. Mais il a pas fait de grosses erreurs. Sa plus grosse erreur, c'est celle qui a fait Barre-Poteau contre Nice début janvier. Mais il était pas assez décisif. Il a sauvé des coups des fois, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de matchs. On est ressorti en disant waouh, ça y est, il a fait gagner des points à son équipe. Il a multiplié les parades. Bon, hier, malheureusement, il en a pas fait gagner à Brest parce que Monaco a finalement été plus fort que lui sur la fin. Mais oui, là, c'est un. Parfois, c'est ça. Il faut piquer un gardien des fois dans son amour propre, dans sa fierté, pour qu'il se recentre peut-être un peu mieux sur son travail, sur voilà, le fait d'être décisif. C'est ce qu'on attend de lui. Et peut-être, effectivement, on le verra sur la suite des événements et dès mercredi d'ailleurs contre Dijon. On verra si eh bien ça permettra à l'Arseneur.
Il a été bon hier en tout cas. Il a été très bon hier.
Très bon parce que même en encaissant 2 buts, dans le journal de l'équipe, il a la note de 8 sur 10 et il est dans l'équipe type de la journée pour un gardien qui a perdu. Ouais. Ça, c'est très rare.
Ouais. Avec un pénalty arrêté de Wissam Ben Yedder, notamment en première mi-temps, de multiples arrêts et son entraîneur.
Même sur le deuxième but, je me souviens qu'il a failli l'arrêter. C'était,
Il était pas loin.
Il a fait un super match.
Qui fait son erreur de marquage et c'est vrai que
Monaco était trop fort. Mais en tout cas, la défaite de Brest ne vient pas de l'Arseneur. Je pense que sans l'Arseneur, il perdait encore plus largement, c'est sûr.
Oui, très clairement. Et d'ailleurs, eh bien, Olivier Dalloglio n'a pas manqué de souligner l'excellente prestation de son gardien en conférence de presse.
Tu peux avoir des moments de moins bien, et à ce moment-là, il y a une réflexion qui est différente d'un joueur de champ. Mais on avait décidé de sortir Gauthier pour qu'il se relance, qu'il se remette, etc. Donc c'est pas simple. Mais quand tu as une difficulté, que tu as un échec, Si tu travailles bien, si mentalement tu es solide, tu te sers de ça pour être encore plus fort. Aujourd'hui, il a fait le match qu'on attendait. Il arrête un pénalty, il a été décisif la plupart du temps. Voilà. Certainement que cette période-là difficile, aujourd'hui, lui sert. Et ce sera la même chose pour Seb Cibois, c'est la même idée.
En tout cas, hier, c'était super l'Arseneur.
Oui, super l'Arseneur qui, malheureusement, n'aura pas réussi à rapporter de points au Stade Brestois, mais qui aura marqué des points auprès de son entraîneur et du staff.
Je me pose une question, moi, Gaëtan, sachant que la Coupe de France arrive dimanche, samedi, Brest, PSG, est-ce qu'il va remettre Cibois pour la Coupe? Ou est-ce que
la question se pose.
Parce que parfois, ça peut peut-être briser l'élan d'un joueur. On ne sait pas.
Ça vaudra le coup de lui demander après le match contre Dijon, effectivement, à Olivier Dalloglio. Mais maintenant, est-ce qu'il va repartir sur une rotation, c'est vrai, championnat coupe, ou alors laisser l'Arseneur, comme il avait fait d'ailleurs avec Cibois contre Rodez en Coupe de France lors de l'intronisation rapide, enfin très courte, mais de Cibois.
Je me souviens, c'était après le match contre Metz à Le Blé que Brest perd 4-2. Il y avait une question d'un de mes collègues sur Gauthier l'Arseneur, et la réponse de Dalloglio n'avait pas du tout été aussi développée que celle que l'on vient d'entendre. Il avait été assez sec et j'avais tilté en me disant tiens, serait pas étonnant de voir un changement de gardien. Je pense que c'est une idée qui a mûri dans son esprit, et voyant effectivement que l'Arseneur n'arrivait pas à hausser le niveau encore plus, on en est arrivé à cette situation là mais là, espérons effectivement que cette petite piqûre de rappel soit positive pour l'Arseneur et surtout pour cette équipe de Brest qui, alors on y reviendra peut-être, il n'y a plus un grand écart non plus entre Brest et la zone rouge maintenant.
On va y venir, mais avant cela, une petite page de pub et puis on revient pour la suite de cette partie brestoise.
Partout, où que vous soyez, écoutez Radio Bonheur grâce à votre smartphone. Téléchargez gratuitement l'application Radio Bonheur sur Google Play ou Apple Store.
Bon, on court une heure?
Ok, mais t'as pas oublié un truc, hein? Tu pars courir sans fermer la maison à clé, toi.
Avec la carte main libre inventée par Renault, on prend vite l'habitude de ne plus avoir à verrouiller les portes. Les innovations Renault, ce sont d'abord les vôtres. Pendant les rendez-vous Renault, Mégane Limited est à partir de 249 € par mois avec 4 ans d'entretien. Portes ouvertes du 11 au 15 mars. Pour Mégane Limited DCI 115, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 3 200 € sous condition de reprise jusqu'au 31 mars si Accordiac. Voir Renault.fr.
Les viandes de bœuf Label Rouge, par ceux qui en parlent le mieux.
Alors écoutez, c'est pas compliqué. Si vous voulez du plaisir dans votre assiette avec une bonne viande de bœuf pleine de goût, bah, il faut des races de terroir, celles qui broutent de l'herbe des prés la majeure partie de l'année et qui mangent du foin de la ferme le reste du temps. Et là, croyez-moi, le plaisir, il est là.
Mais vous êtes éleveuse ?
Ah non, pas du tout, moi je suis institutrice. Mais bah, je m'intéresse à ce que je mets dans mon assiette. Pas vous ?
Les viandes de bœuf, la belle rouge, le plaisir de manger mieux.
Leclerc.
Ah, je suis trop contente, ils nous livrent le lave-vaisselle samedi.
C'est ton premier ?
Oui.
Oh, tu vas voir, ça change la vie.
Ah ben c'est sûr. Mais du coup, je prends quoi comme produit vaisselle ?
Fais comme moi, prends les tablettes Finish. Du 2 au 13 mars, t'as deux packs de 45 tablettes pour le prix d'un. 90 tablettes, il va être rodé ton lave-vaisselle.
Ah ben j'ai hâte d'être à samedi. Hein.
Ta vaisselle aussi.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc.
Chez Dacia, on aime ce qui est vraiment utile. Comme des pneus qui vous serviront toute l'année, peu importe les saisons. C'est pourquoi Michelin vous offre jusqu'à 60 euros pour l'achat de pneus Michelin Cross Climate pour votre Dacia. Prenez rendez-vous près de chez vous dans l'un de nos 4000 ateliers afin d'en profiter. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Trouvez l'atelier le plus proche et prenez rendez-vous sur dacia.fr. Voir conditions de l'offre sur le site. Dacia respecte les mesures sanitaires.
On retrouve Être là pour vous avec Cerise de Groupama.
Un problème, Christine ?
Oui, Cerise. Ma voiture est en fin de vie. Si elle démarre plus, c'est toute la famille qui sera bloquée. La changer, c'est pas un luxe, c'est une nécessité.
Justement, chez Groupama, quel que soit votre projet, profitez du prêt personnel Desirio à un super taux et adaptez votre mensualité à votre situation en choisissant la bonne durée. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Prêt personnel après accord d'Orange Bank et délai de rétractation. Votre assureur est intermédiaire exclusif en opération de banque d'Orange Bank RCS Bobigny. Plus d'infos sur groupama.fr.
En ce moment, le Crafter Pro First 140 chevaux TDI avec solution CarPort Pro est à seulement 299 euros par mois sans apport. Alors oui, rassurez-vous, l'espace de chargement reste le même. Non, vous n'aurez pas seulement la moitié d'un Crafter. Évidemment, il y aura des roues et un volant. Et oui, à 299 euros par mois sans apport, on oublierait presque que c'est un utilitaire Volkswagen.
Location longue durée 48 mois et 60 000 km sur Crafter 30 Pro First L3H3 TDI 140 BVM jusqu'au 31 mars 2021, si acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur volkswagen-utilitaire.fr.
Le magazine des déchaînés du football, 19h25, on est en direct sur les ondes de Radio Bonheur jusqu'à 20h30. On continue de parler de Brest, Gaëtan.
Oui, et après l'excellente partie de l'Arseneur, le secteur défensif qui avait aussi été remanié en charnière centrale, la charnière qui a beaucoup été bougée cette saison avec Chardonnay aux côtés d'Erel, Chardonnay aux côtés de Duverne, Duverne Erel, et maintenant il y a aussi Lignon Brassier qui vient s'insérer dans cette rotation. Hier, Chardonnay était là aux côtés donc de Brassier, Erel était absent, blessé à un genou, et c'est Brassier qui a été choisi pour être titulaire à la place de Jean-Kévin Duverne, l'ancien Lensois qui avait pourtant débuté la saison en tant que titulaire avec le brassard de capitaine, mais qui a assez régulièrement déçu ces derniers temps quand il a été aligné et donc qui a un petit peu perdu sa place ces derniers temps. Écoutons Olivier Dalloglio qui revient sur le rôle de Jean-Kévin Duverne et sur ce qu'il en attend.
Ouais, JK, j'attends plus, ouais. Ouais, j'attends plus de lui. Après, il y avait aussi le fait que Lilian est présent et que Lilian est gaucher aussi, donc ça amène... Ça amène une différence aussi sur le plan tactique, sur le plan de la relance. Mais je compte encore sur Jukka, bien sûr. Jukka doit ressurgir. Il est là, il est présent à l'entraînement. On peut vraiment, c'est un garçon exemplaire. Mais j'aimerais trouver le Jukka de la saison dernière un peu plus saignant. Quoi. Il y a aussi ce travail qu'il doit faire dans les airs, au niveau aérien. Il y a plein de petits détails qu'il doit peaufiner.
Oui, plein de détails à peaufiner pour Jean-Kévin Duverne pour retrouver son niveau. Mais on sait, hein, si les gardiens, parce qu'on en parlait juste avant, sont aussi en difficulté un peu cette saison à Brest, c'est parce qu'on n'a jamais vraiment trouvé cet équilibre au sein de la charnière centrale. En tout cas, la vraie paire, celle qui permettrait d'assurer une totale sérénité, ou en tout cas un peu plus importante que celle-là. Le seul défenseur pour l'instant qui se dégage vraiment dans l'axe, c'est Brendan Chardonnay, celui qu'on attendait peut-être le moins finalement au début de la saison. Une défaite pour les Brestois, mais du mieux, notamment donc au poste de gardien. Et vous le disiez, Pierre, juste avant la pub, et mine de rien, l'étau se resserre entre Brest et la 18e place.
Oui, j'avais absolument pas fait attention au classement pendant des semaines et des semaines sur Brest. Et puis hier, en regardant par rapport à Lorient, qui, on le disait, se rapprochait eh bien, de Saint-Étienne. Eh bien, je vois que Brest n'a qu'un point d'avance sur Saint-Étienne. Donc, 5 points d'avance sur Lorient pour Brest. Lorient est 17e, donc ça va. Mais 6 points d'avance, entre guillemets, seulement sur Nîmes. Donc voilà, il ne faudrait pas que cette mauvaise passe dure pour les Brestois. Alors, ils ont toujours, comme le dit souvent Dominique, gagné le match qu'il fallait cette saison. C'est vrai qu'il y a eu la victoire aussi contre Bordeaux dernièrement qui les a un petit peu relancés. Là, il y a Brest-Dijon mercredi.
Voilà, normalement, c'est un match à gagner qui devrait les assurer de rester dans une zone plutôt tranquille. Ils n'ont jamais été inquiétés, les Brestois, depuis le début de la saison.
C'est l'occasion pour toujours ne pas les...
Voilà, mais il faut gagner de temps en temps, ça c'est obligatoire. Ouais. On a eu un début de saison un peu compliqué quand même, il ne faut pas l'oublier, avec Brest. Depuis, ça va beaucoup mieux. Brest qui oscille toujours entre la 10e et la 12-13e place. Bon, là, ils sont 14e. C'est vrai qu'il y a un petit coup de moins bien. Il serait de bon ton de gagner contre Dijon.
Oui, parce que finalement, on parlait de top 10, mais bon, il y a 5 points de retard sur le top 10 et seulement 6 d'avance, on le disait, sur la 18e place, la place de barragiste et la zone de relégation en dessous qu'a donc quitté le Football Club de Lorient, Pierre.
Oui, quelle joie hier au Moustoir pour ces Lorientais qui avaient quand même pris un coup sur le casque à Nîmes mercredi dernier. On entendra d'ailleurs tout à l'heure Christophe Pélissier qui avait un peu peur de la suite de cet échec à Nîmes, mais voilà, ça n'a pas été le meilleur match des Lorientais hier, ça n'a pas été le meilleur match tout court parce que ça a été longtemps fermé entre les deux formations. Et puis il y a un homme qui a tout décanté, qui s'est procuré même toutes les occasions après son entrée en jeu, c'est Armand Lorienté. Retour sur ce Lorient-Saint-Étienne dans les conditions du direct, c'est maintenant. C'est souvent le genre de match qui a corner pour Saint-Étienne alors que Mendes avait laissé filer le ballon sortir des limites du terrain. Ça peut être petite erreur, grosse conséquence, cette étourderie lorientaise. Alors ils étaient persuadés d'avoir le 6 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, Stéphanois dans la surface de réparation, c'est parti. Et c'est but, voilà. Et c'est but contre son camp, j'ai l'impression de Gravillon. Un corner bêtement concédé, mais archi bêtement concédé, qu'ils auraient pu mille fois éviter. Et Saint-Étienne donc qui marque. Les sorties de Boigard, Lefay et Monconduit, entrée de Lorienté, Wissa et Lemoine pour Lorient. N'a pas pu enchaîner malheureusement. Oui, ça maintenant qui a la faute de notre ami Camara sur Wissa, quasiment plein axe là, tout légèrement décalé sur le côté gauche face au but de Jesse Moulin, et ça peut être très intéressant. Allez, c'est Lorienté qui va s'élancer, qui frappe. Incroyable coup de canon d'Armand Lorienté qui réveille tout Lorient en téléguidant cette lourde frappe dans la lucarne de Jesse Moulin. Voilà un but qui va peut-être tout changer à 25 minutes du terme de cette rencontre. C'est un joueur sorti du banc qui relance les merlus. Lorienté à partout. Allez, Mofi, mais là on fait cause commune pour les merlus aujourd'hui. Allez, à Bergel, il est bon ce ballon pour aller chercher Lorienté dans la surface de réparation. Lorienté face à Moulin. Lorienté, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une frappe complètement ratée.
C'est dommage.
Égalisation nîmoise, un but partout.
Ah, donc finalement c'est parfait.
Entre Nîmes et
Nantes. C'est pas parfait.
Non,
c'est statu quo.
Ah oui, non, faut qu'on gagne.
C'est statu quo puisque tout le monde fait match nul pour l'instant.
25 minutes et 30 secondes, un but partout entre Lorient et Saint-Étienne. Armand Lorienté, l'auteur du but égalisateur, qui donne un retrait sur Lemoine. Gravillon maintenant, c'est un siège de Lorient sur le camp de Saint-Étienne. Gravillon qui va décaler Mendes, c'est bien joué. Allez, il faut du monde dans la surface, centre de Mendes, devant le but, c'est pas fini, le deuxième but Lorienté, et c'est le héros du jour, Armand Lorienté, qui marque sur cette action son premier doublé en Ligue 1. Il avait marqué son premier but en première division sur son coup franc tout à l'heure, et ça vient sur un centre de Mendes, le malheureux, en première période. Passe décisive de Mendes, but de Lorienté. Encore une fois, Lorient renverse une situation en fin de match. 2-1. C'est fini, Lorient au courage.
Liège, grâce à ses rentrants, grâce à Armand Lorienté, qui est venu retourner Saint-Étienne dans ce match si important après la grosse déception de Nîmes. Cette semaine, Lorient se redresse dans ce championnat de Ligue 1, a renversé Saint-Étienne et remet Saint-Étienne dans la course au maintien. 2-1, victoire capitale.
Elle est importante, évidemment, cette victoire des Merlus qui sont remis dans le bon sens et qui sortent surtout de la zone de relégation et même de la zone orange. Hein, les Merlus qui ne sont même plus barragistes. C'est Nîmes qui devient barragiste et Nantes qui prend cette peu envieuse 19e place, synonyme de descente pour l'instant.
Ça va aller, Dominique?
Ça va aller, mais on s'y attend, hein, du côté des Nantais à la descente cette saison. Moi, j'ai prédit depuis le début de l'année, depuis le début de ces saison de Ligue 1 et de Ligue 2, deux grosses surprises, enfin deux descentes peu attendues, celle de Guingamp et de Nantes. Pour l'instant,
Vous n'êtes pas loin.
Pour l'instant, c'est tout à fait possible.
Vous n'êtes pas loin, on va s'arrêter là-dessus. Mais effectivement, dans ce championnat à 3 qui semble se dessiner entre Lorient, Nîmes et Nantes, eh bien, c'est Lorient qui, cette fois au bout de la 27e journée, eh bien, a repris l'avantage sur ses deux adversaires grâce notamment au banc qui a fait la différence hier. Et notamment, alors à l'entrée de Lorienté, c'est vrai, c'est lui qui marque les deux buts, donc c'est forcément celui qui va prendre la lumière. Mais l'entrée de Lemoine a été très intéressante dans l'agressivité qu'il a apportée au milieu de terrain. Et puis on se souvient, vous l'avez peut-être entendu sur les résumés, que c'est Johan Wissa qui obtient le coup franc transformé par Armand Lorienté. Christophe Pélissier pouvait être évidemment satisfait de son choix, de ses choix d'hier.
Oui, le premier mi-temps où il y a très peu de rythme, en plus le fait que Saint-Étienne ouvre le score, bon, ben après ils se mettent bloc bas et ils refusent un peu le jeu, ils essayent de nous contrer, donc nous c'était difficile, même si on avait, je trouvais, des bonnes sorties, on trouvait bien dans les interlignes, mais on avait du mal sur les 30 derniers mètres à mettre de la vitesse. Mais c'était prévu, entre guillemets, pas d'être mené, mais c'était prévu de faire rentrer après nos joueurs qui amènent un peu plus de percussion, que ce soit Wiss, que ce soit Armand. Voilà, j'avais décidé de le faire, mais voilà, ça nous donne la victoire parce que je crois qu'on a cru jusqu'au bout à notre capacité à les mettre en difficulté.
Ouais, c'est vraiment l'équipe qui a eu le plus de cœur dans ce match, parce que ça n'a pas été flamboyant, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre hier, mais
Lorient n'a jamais abdiqué.
Non, et oui, effectivement, dans cette fin de rencontre, c'est Lorient qui poussait de plus en plus sur la surface stéphanoise. Il suffisait d'une belle action, et cette belle action, elle est arrivée donc en fin de rencontre avec Mendes, qui avait pourtant connu un match très très compliqué dans son couloir droit, qui a réussi à faire la passe pour Armand Lorienté. C'est pas la première fois, hein, Gaëtan.
On l'attendait pas, Lorienté, sur ce match-là. Il n'a pas fait un match extraordinaire. Bon, si, du coup, parce que c'est lui qui met les deux buts.
Pas une saison extraordinaire,
mais
surtout.
Mais même là, hier, c'est, pour moi, bon, évidemment, on va pas dire qu'il a fait un mauvais match puisqu'il met les deux buts.
Ouais.
Mais il n'a pas été très présent, Lorienté. Mais il était là quand il fallait. Donc c'est le plus important.
Ce qui est étonnant, c'est que sur la demi-heure qu'il a joué, il y a eu 4 occasions pour Lorient. Et les 4, à chaque fois, c'était lui qui était à la retombée. Il en a une qui manque de manière assez nette alors qu'il est tout seul sur le côté gauche. D'ailleurs, Armand Lorienté, ça sera l'objet de la rubrique de demain. Mon cher Gaëtan, à 8h40 et 17h40, vous entendrez notamment les mots de Pélissier sur son attaquant, que l'on attendait un peu plus quand même cette saison. L'année dernière, il avait été précieux dans l'obtention de la montée. Là, c'était un petit peu plus compliqué pour sa première réelle saison pleine en Ligue 1.
Oui, parce qu'en fait, il est arrivé relativement tard aussi dans le mercato. Il n'était pas là dès le début. Hein. On se rappelle que l'année dernière, il était prêté à Lorient par le Stade Rennais, que là, il a été cédé par le Stade Rennais. Il y a eu une transaction, mais c'est arrivé assez tardivement dans le mercato, qu'il a ensuite été touché par la Covid-19, ce qui a retardé ses premiers pas avec le FC Lorient en Ligue 1. Et derrière, il a mis un petit peu de temps à récupérer Armand Lorienté. Il est bien revenu avant l'hiver, hein, une bonne fin d'année civile où il était plus dans le rythme. C'était même par moment l'un des seuls un petit peu à surnager. On se souvient des matchs contre Montpellier, contre Angers aussi, où il avait été assez précieux, mais c'était malheureusement le seul un peu à ce moment-là à sortir la tête de l'eau. Et puis il y a eu une petite vague à nouveau un peu plus négative, ou en tout cas un peu moins, on le sentait moins dans le tempo Lorienté ces derniers temps, avant qu'il ne refasse surface, et notamment hier avec son doublé.
Ouais, et l'orienter donc avec son but qui est pas si évident à mettre que ça hein, en fin de rencontre à la 86e minute, ce qui a donc
ah oui le coup franc le
alors il y a eu le coup franc magnifique, mais même le dernier hein, faut la mettre. Elle passe très loin du premier poteau.
Ouais, parce qu'il est en bout de course en plus quand il est servi.
Ça me paraissait plus facile quand on l'a vu de notre position très loin à vitesse réelle que quand on a revu le but au ralenti. Mais tant mieux d'avoir trouvé cette fenêtre là entre le poteau et Jesse Moulin, ce qui a donc matérialiser le cœur, l'orienter en fin de rencontre. Écoutez à ce sujet Christophe Pélissier.
Je ne sais pas si c'est l'équipe qui en voulait le plus, mais c'est vrai que j'ai trouvé que mes garçons, par rapport à mercredi, où je leur avais un peu... Ah, j'avais dit qu'on avait perdu ce match à Nîmes parce que peut-être que Nîmes en avait voulu un peu plus. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris le message et qu'aujourd'hui, ils ont mis tout leur cœur. Leur cœur, même si parfois, et c'est un peu normal, je veux dire, quand on est une équipe qui joue le maintien, on ne peut pas tout réussir, mais dans l'état d'esprit, dans l'abnégation, dans la solidarité, moi je dis bravo à mes joueurs, mais voilà, il faut continuer, on sait qu'il y a 11 matchs, on sait que ça va être important pour s'en sortir.
Oui, c'est 11 finales, c'est 12 finales dont il parlait et dont il avait refusé de parler hein, d'ailleurs Christophe Pélissier. Pour lui, c'était pas des finales, mais
parce qu'on s'arrête après une finale.
Exactement, j'ai adoré ce terme. Il y en a d'autres, vous entendrez dans quelques instants qui parlent de finale dans un autre contexte. Christophe Pélissier, on lui a posé la question également sur une éventuelle crainte de l'après Nîmes, parce que on en avait parlé même la semaine dernière, on sentait très vite, même dans les réactions et les esprits l'orientaient après la défaite contre Lille, que tout s'était focalisé sur ce Nîmes-Lorient perdu de manière cruelle en fin de rencontre, dans un match qu'ils auraient pu, voire dû gagner, les Merlus. Et on lui a posé la question, avait-il peur d'un début de spirale négative après Nîmes? Réponse.
Oui. Oui, honnêtement, oui. Parce qu'en fait... on l'a connu d'une manière positive. On a battu Dijon à la 96e, on a battu Paris à la 95e, et donc on se sentait pousser des ailes. Et souvent, on perd à Nîmes à la 90e sur un pénalty. Donc des fois, ça peut mettre vraiment un coup de massue sur la tête des joueurs. Et j'avais senti dans le vestiaire à Nîmes, c'était très compliqué. Le lendemain aussi. Donc c'était important aujourd'hui, et c'est ce que j'avais dit aujourd'hui aux joueurs. C'est important de casser cette dynamique-là, cette spirale, et de repartir sur une dynamique positive.
Heureusement, hein, Gaëtan, parce que ouais. Ça aurait pu commencer à mal tourner entre la claque contre Lille, ce match au couteau perdu à Nîmes.
Oui. Et puis on aurait dit que finalement le point de départ de tout cela aurait été l'égalisation concédée à la 93e à Monaco finalement. Hein.
C'est vrai.
Il y avait cette fameuse série où Lorient a gratté beaucoup de points en fin de match, Dijon, Paris notamment, même Rennes. Et puis il y a eu ce nul entre guillemets concédé à Monaco à la dernière minute, ce penalty concédé en toute fin de match contre Nîmes, et donc la défaite en plus là contre un concurrent direct. Donc cette victoire contre Saint-Etienne, elle arrive vraiment à point nommé, parce qu'en plus Saint-Etienne, c'est, alors il disait après le match à Nîmes que Saint-Etienne n'était pas un concurrent direct pour le maintien, Christophe Pélissier, et on se rend compte qu'avec la victoire d'hier, ça le devient quand même un petit peu.
Mais oui, parce qu'on peut faire le point sur le classement maintenant. Alors on commence par qui? Reims 13e peut-être? Parce
que
Reims,
c'est pas très... Oui, je pense que c'est à partir de là qu'on peut inclure les concurrents.
Il y a Bordeaux et Nice 33 et 32, on a Reims 31, Brest 31, Strasbourg et Saint-Etienne 30, Lorient 17e 26, Nîmes 18e 25, Nantes 19e 24 points et Dijon 20e 15 points. Bon courage aux Dijonnais dans cette
fin
de saison.
Oui, je pense que pour
saison.
Eux, c'en est quasi terminé. Hein.
Ouais, c'est le seul club qui est vraiment, je dirais, presque déjà condamné, c'est Dijon.
Ouais. Ouais, et donc, voilà, hier on l'a dit, c'est Lorient qui a fait la très belle opération en repassant devant Nîmes et Nantes après le match nul entre ces deux formations. Mais lui, il garde vraiment beaucoup de recul par rapport à cette situation, on va dire, et à ses analyses un peu court-termistes de tout le monde. Écoutez-le.
On ne peut pas réagir au gré de matchs comme ça, parce que voilà, nous, ce qui nous importe, c'est de gagner les matchs. Après, les résultats des autres, malheureusement, on ne peut rien y faire. Donc nous, c'est gagnons nos matchs, peut-être qu'en gagnant, on va sortir plus facilement de la zone. Le jour où on fera, on va y revenir. Et je crois que c'est là aussi que mentalement, on doit être fort. Donc si on commence à dire, ah, aujourd'hui, on est dans la zone rouge, là, on en sort, donc on peut se relâcher un petit peu. Non, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Il restait 12 matchs, ce que j'avais dit aux joueurs. Ben, nous, il faut gagner le plus de matchs possible, il faut jouer les matchs pour les gagner. 3 points, c'est important. Donc, ayons cette mentalité, ayons cette envie d'aller gagner contre tout le monde. On l'a prouvé contre Paris, on l'a prouvé. Voilà, et ce soir, on le prouve contre Saint-Etienne, qui est une grosse équipe du championnat. Voilà.
Oui, c'est un gros club, mais grosse équipe, je ne suis pas forcément persuadé que ce soit une grosse équipe. Hein, cette équipe
pas cette saison, en tout cas, non.
Pas cette saison, non.
Non. Et nos amis journalistes qui sont même allés plus loin dans la question auprès de Christophe Pélissier par rapport aux équipes à aller chercher devant. On vient d'en parler, il n'y a plus beaucoup d'écart. 4 points avec Strasbourg et Saint-Etienne, 5 sur Reims et Brest. Voici son analyse sur les équipes qui sont devant Lorient.
Ouais, mais non, mais je ne regarde pas comme ça. On a 26 points aujourd'hui. Avec 26 points, on ne se maintient pas. Donc il reste 11 matchs. Il faut aller chercher des points partout. À tous les matchs, il faut chercher des points et puis on fera le bilan à la fin. Mais nous, on ne peut pas réagir. Aujourd'hui, il y a l'équipe Kamba qui nous rattrape. Aujourd'hui, en haut, on peut les rattraper. Non. Faisons le match, faisons des matchs comme aujourd'hui, plein. Voilà, et après, on fera le bilan à la fin du match, à la fin de la saison.
Voilà donc, on attendra la 38e journée pour savoir.
Il se mouille pas.
Si Lorient. Mais après, je pense que c'est ça. Hein. Nous, alors, notre travail, c'est d'analyser. Hein,
quelquefois, le championnat s'arrête avant la 38e.
Ah, ça peut arriver, ça.
Peut-être pas tous les ans. Peut-être pas tous les ans. Mais en tout cas, oui, je pense qu'eux, vraiment, ils sont focalisés hein, sur leur championnat. Je sais pas vraiment s'ils regardent avec beaucoup d'intérêt, d'enthousiasme le classement. Je pense que c'est la phrase bête, mais c'est prendre les matchs les uns après les autres.
Ouais, je pense qu'ils le regardent pas forcément quand ils sont dans la bonne posture, là, à cette 17e place. Par contre, quand ils sont 19e, je pense que ça a un impact quand même psychologiquement.
Oui, même les joueurs.
De rebasculer sur les joueurs aussi. Hein,
forcément, ouais.
Après, Lorient a peut-être deux avantages sur. Alors, il y a sans doute aussi des défauts ou des avantages pour d'autres équipes, mais Lorient a deux avantages, je pense, dans ce sprint final. C'est que c'est sans doute l'équipe qui propose le meilleur jeu entre Nîmes, Nantes, Lorient, et même Saint-Etienne. Hein. Saint-Etienne, c'est assez faible quand même comme jeu proposé aussi.
Oui.
Et l'autre avantage, c'est que Lorient a joué quasiment tous les gros aussi dans cette phase retour. Et en plus,
Lyon
a pris des points contre ces gros-là. Il manque que Lyon. Voilà. Paris, ça a été joué et gagné. Monaco, ça a été joué match nul. Lille, ça a été joué défaite. Mais voilà, il n'y a que Lyon finalement qui n'a pas été joué dans les gros. Alors que quand on regarde Saint-Etienne, ils doivent encore jouer Paris et Lille, par exemple. Même Monaco aussi. Nîmes doit encore jouer Lyon et Lille, voire même le Stade Rennais, même si Rennes est moins bien maintenant.
Un peu moins bon, les Rennais.
Nantes doit encore jouer Paris, Lyon. Bon, il y a Rennes aussi dans ce tableau-là. Donc. Voilà, c'est peut-être les deux avantages de Lorient, même si à côté, effectivement, les autres en ont aussi. Hein. Nîmes, on sait que c'est toujours une équipe qui se bat énormément. Nantes, qui a peut-être un peu plus d'expérience aussi de ces fins de saison-là à couteau tiré. Bon, voilà, tout cela fera qu'on verra bien qui se sauvera ou non. Mais voilà, ce sont les deux, je pense, avantages de Lorient, notamment.
Voilà pour la
page
Ligue 1. Et passons au National, juste après, avec Ahmad Allé, le héros briochin du week-end.
A tout de suite.
Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, On s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là.
Radio Bonheur, il est 19h48, voilà, on a parlé de Brest, on a parlé de Lorient qui se réveille, et on parle de la troisième division avant d'attaquer les Guingampais pour la dernière demi-heure. La troisième division avec le championnat de National et Saint-Brieuc qui signe ce week-end sa première victoire à l'extérieur.
Oui, c'était à Bastia-Borgo, victoire 3-1. Gaëtan, c'était pas simple hein, d'aller, c'est jamais simple d'aller gagner en Corse. Les Briochins donc qui ont marqué 3 buts avec un triplé donc d'Amad Allé, une victoire très importante au classement parce qu'en plus le premier relégable Bourg-en-Bresse a battu Le Mans. Du coup, eh bien il y a toujours 3 points d'écart au classement, mais il y a un sacré paquet d'équipes qui n'est pas à l'abri finalement dans ce championnat.
Oui, c'est ça, même le stade Lavallois qui joue en ce moment d'ailleurs contre Quevilly-Rouen, à la mi-temps, Quevilly-Rouen mène 2-0 à Laval, et on voit que Laval finalement, qui était un concurrent en prétendant en tout cas à la montée, se retrouve en 11e position, à égalité de points avec Saint-Brieuc, pour l'instant 27 unités
de chaque côté. Saint-Brieuc qui a des matchs en retard.
Et Saint-Brieuc qui a en plus un match en retard sur Laval, qui a 2 matchs en retard sur certaines équipes comme le Sporting Club de Lyon qui est relégable. Donc tout est très serré et on voit que cette victoire était vraiment très importante à Bastia-Borgo. Bastia qui est en plus 14e avec 26 points. C'est le premier non relégable de ce championnat. Et puis Saint-Brieuc, c'est surtout la première victoire de la saison à l'extérieur en championnat. Elle s'est fait attendre hein, celle-là.
Oui, parce que Saint-Brieuc perd très très peu et prend très peu de buts même à domicile. Et on voyait la différence hein. Saint-Brieuc qui doit être dans le top 5 des équipes à la maison et qui était dernière à l'extérieur. Là, c'était compliqué pour
Saint-Brieuc qui est 6e à domicile et à l'extérieur 17e, avant-dernier. Voilà,
depuis la
juste
victoire.
Devant 7, depuis la victoire, sinon ils étaient derniers, effectivement.
Et justement, cette victoire, elle s'est dessinée grâce à un triplé d'Amad Allé qui est en direct avec nous ce soir au téléphone. Bonsoir, Amad. Est-ce que Amad nous entend ? Ah, apparemment, oui. Amad, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors déjà bravo aux héros briochins de ce week-end. Racontez-nous un petit peu ce match. Est-ce que c'est votre premier triplé déjà en carrière?
Oui, c'est mon premier triplé. Après, peut-être que j'ai marqué quand j'étais plus jeune, quoi, en Benjamin et tout, mais en match officiel sur un terrain 11, c'est mon premier.
Alors ce match, comment vous l'avez abordé? Parce que c'est vrai que la période, elle n'était pas excellente pour Saint-Brieuc qui ne gagnait plus beaucoup en championnat. Il y a eu en plus, juste avant l'élimination contre la Montagnarde. Comment vous avez vécu cette semaine en arrivant vers ce déplacement à Bastia-Borgo avec en plus le nul à Orléans? Est-ce que vous êtes vite passé à autre chose après la Coupe de France?
Oui, bien sûr. Après, on était en confiance, on a continué à bosser. On savait que là où on avait le plus de mal, c'était devant. Enfin, on manquait d'efficacité. Sinon, après, on prenait pas de but et tout. On était solide. C'est juste qu'il nous manquait un peu d'efficacité. Et sur ce match, bon, on a été efficace et ça a payé.
C'est ça, l'efficacité, ça a été l'ingrédient principal de cette rencontre. Quelle a été la recette de cette première victoire à l'extérieur qui se faisait attendre?
Bon, c'est le travail, hein. c'est avec les entraînements, avec l'envie aussi, surtout avec l'envie, c'est ce qui nous manquait en coupe. Après, on a créé du beau jeu, surtout sur les buts aussi, on a créé des belles occasions. Après, je pense qu'on a été surtout solide, on s'est encouragé et on s'est bien projeté vers avant, on a été présent dans la surface. On était beaucoup à attaquer le but. Et c'est ce qui nous a permis de marquer des buts aussi.
Et on l'a vu notamment sur ce deuxième but. On revient dans quelques secondes, Hamad, sur ce triplé, cette victoire à Bastia-Borgo. On se retrouve dans 2 minutes pile après une page de réclame. À tout de suite.
Chez Dacia, on aime ce qui est vraiment utile. Comme des pneus qui vous serviront toute l'année, peu importe les saisons. C'est pourquoi Michelin vous offre jusqu'à 60 euros pour l'achat de pneus Michelin Cross Climate pour votre Dacia. Prenez rendez-vous près de chez vous dans l'un de nos 4000 ateliers afin d'en profiter. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Trouvez l'atelier le plus proche et prenez rendez-vous sur dacia.fr. Voir conditions de l'offre sur le site. Dacia respecte les mesures sanitaires.
Les viandes de bœuf La Belle Rouge, par ceux qui en parlent le mieux.
C'est l'époque qui veut ça, on veut tout, tout de suite. Mais pour faire une bonne viande de bœuf La Belle Rouge, pas question de la jouer en accéléré. Les bêtes, il faut leur laisser le temps de brouter l'herbe des prés, au grand air, année après année, dans des fermes familiales. Et pour la viande, ben c'est pareil, 10 jours de maturation lente, minimum. Et là, le plaisir, il est là.
Mais vous êtes éleveuse ?
Ah non, non, prof de yoga. Mais je regarde ce que je mets dans mon assiette, pas vous ?
Les viandes de bœuf La Belle Rouge, le plaisir de manger mieux.
Leclerc.
Tu prends 3 packs de Perrier ?
Bien sûr. Du 2 au 13 mars, pour l'achat de 2 packs de 6 bouteilles d'un litre d'eau minérale gazeuse Perrier, le 3e pack est offert.
Ah ouais, bon plan.
Et puis tu vois, en ce moment, on a une grande envie de Perrier rondelle en terrasse.
Ouais, mais en terrasse...
Bah oui, madame, sur ma terrasse.
Ah, donc on parle de ton balcon, là.
Voilà, terrasse privée en plus.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Dis donc chérie, t'as appelé Abri Sud pour notre nouvel abri de piscine?
Ben non, je croyais que tu t'en occupais.
Oh non, mais tu m'avais dit que tu appelais. L'abri de piscine Abri Sud pour cet été, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper.
Reste zen, bien sûr que j'ai appelé Abri Sud. T'inquiète, on l'aura à temps notre abri de piscine.
Oh, t'es trop fort mon chéri.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Retour du magazine des déchaînés du football en direct sur Radio Bonheur, 19h et presque 55 minutes. Bravo les briochins.
Oui, bravo Hamad Allé, on le rappelle, auteur du triplé victorieux à Bastia-Borgo ce week-end. Saint-Brieuc qui menait 1-0, qui a été repris un partout et qui a donc fait la différence, notamment avec ce deuxième but. Hamad, une action collective absolument magnifique que nos auditeurs pourront aller voir sur les réseaux sociaux, notamment du stade briochin. Racontez-nous cette action, parce que vous êtes spectateur finalement. Il y a une succession de passes de vos partenaires et vous êtes là, à 20 mètres, vous entendez l'offrande finalement.
Oui, bah après, bah, plusieurs fois en deuxième mi-temps, j'étais tout seul en retrait. Et plusieurs fois, bah, j'attendais le ballon. Et là, on a su faire plusieurs passes dans un petit périmètre. Et Devon me la décale et je l'attrape en une. Et il y a eu but. Mais ouais, c'était une belle action. Hein. Il y a eu beaucoup de passes et tout. C'était propre en une ou deux touches balles. Et ça a payé.
C'est la marque du stade briochin, ça. C'est vrai que vous avez dû un petit peu vous renier aussi par rapport aux années précédentes. Ça a été une de vos difficultés en début de saison. Maintenant, comment vous arrivez à apprivoiser, à faire le mélange entre vos qualités d'antan, c'est-à-dire ce jeu que l'on a vu sur ce but-là, et puis les qualités avec un championnat qui fait beaucoup, beaucoup de place au physique?
Bon, on est des joueurs avec des qualités différentes et on arrive à le faire sur le terrain. Il y en a où c'est plus technique, il y en a c'est physique. Et bon, on fait bien, on travaille bien aussi à l'entraînement et après on arrive à reproduire ça sur le terrain le week-end. Après, bah, c'est ce qui me manquait, c'est l'efficacité. Et aujourd'hui, bah, ça a payé avec 3 buts. Après, bah, comme sur les autres matchs où on a fait plusieurs nuls, on a su rester solide. Et voilà quoi.
Et vous qui à votre niveau découvrez le national, pour un joueur de votre gabarit, voilà, petit, technique, on imagine qu'il a fallu peut-être une période aussi d'adaptation à ce championnat.
Bah, je pensais que ça allait être plus dur, mais après c'est dans la tête, c'est le placement. Il faut voir vite avant de recevoir, c'est surtout le placement, c'est bien se déplacer. Après, c'est une fois que t'es en confiance et tout, ça vient tout seul.
Gaëtan, je vous en prie.
Oui, j'avais une question pour Hamad, une question un peu plus tactique. Depuis le départ de Johan Lemeauté, qui était le numéro 10, le meneur de jeu de cette équipe, qu'est-ce que ça change pour vous, Hamad, qui est un milieu de terrain relayeur? Est-ce que ça vous offre aussi plus de liberté offensivement, d'où ce triplé à Bastia?
Bah, ça change, parce qu'au début, le coach il me fait jouer devant la défense. Et là, ça me permet de jouer un peu plus haut, où je peux me trouver un peu plus facilement devant le but, où je peux me projeter un peu plus. Et après, on s'adapte en fonction des joueurs qu'on a. Et ça permet au coach aussi de faire jouer trois milieux. Et voilà, après on s'adapte et ça nous réussit plutôt bien.
Et vous êtes maintenant l'homme dédié, ou en tout cas dévoué au coup de pied arrêté. Vous avez marqué ce coup franc direct, notamment à Bastia ce week-end.
J'ai tenté, de base sur la feuille, c'était pas moi. C'était plus James ou Hugo Vargas qui tirait les coups de pied arrêté sur les côtés. Mais là, j'ai pris le coup franc. Mais je crois que Benjamin Angois l'a dévié. On voit pas sur la vidéo, mais il dit qu'il a dévié un peu de la tête. Elle est rentrée, c'est l'essentiel, et ça nous a permis de mettre le troisième et de nous rassurer un peu sur la fin du match.
Ouais, c'est juste pour ses stats qu'il dit qu'il l'a touché, monsieur Angois.
Ce serait peut-être un doublé, sinon ce serait dommage de gâcher
sinon
votre...
Vous avez gardé le ballon d'ailleurs?
Il me l'a laissé, non, il m'a ramassé direct dans le sac.
Bravo. J'espère que vos collègues briochins vont se cotiser pour vous payer un ballon, parce que quand même un triplé en national, c'est pas rien.
C'est l'usage normalement, hein. Quand on met trois buts dans un match, on a le droit de garder le ballon.
J'ai appelé la fédération dans un instant.
Fallait mieux le faire, faut le faire à domicile maintenant, Hamad, ça va peut-être être plus facile.
Faut enchaîner, hein, à domicile, à l'extérieur, faut prendre le maximum de points, faut gagner.
Dernière question, est-ce que vous pensez, alors oui, je pense que vous le pensez, mais comment s'appuyer sur ce premier succès à l'extérieur pour que celui-ci en appelle d'autres lors de vos prochains déplacements? Qu'est-ce qu'il faut garder pour enchaîner maintenant sur de meilleurs résultats en déplacement?
Pareil, garder le sourire, travailler, rester confiant en nos qualités et essayer de reproduire ça chaque week-end, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Faut prendre match par match et rester sérieux, ça va venir tout seul. Ça va dépendre que de nous, les joueurs. Et voilà.
Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, en tout cas, Hamad Allé, d'avoir été avec nous sur Radio Bonheur, et dans quelques jours, quelques semaines, pour le deuxième triplé.
Merci à vous.
C'est ce qu'on espère. Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Merci, au revoir. Merci, bonsoir. Vous écoutez Radio Bonheur au carillon de Radio Bonheur et sur les montres qui marchent, il est 20h, les infos, et on se retrouve dans un instant pour la suite du magazine des déchaînés du football en direct jusqu'à 20h30.
Bonsoir à tous. Le tribunal correctionnel de Paris a décidé, 2 mois et demi après son procès, de condamner Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, dans l'affaire dite des écoutes, une peine qui peut nécessiter un aménagement à domicile sous forme de bracelet électronique. C'est ce qu'a souligné la présidente du tribunal, Christine May. Nicolas Sarkozy devient ce lundi le 2e ex-président à être condamné sous la 5e République, après Jacques Chirac en 2011 dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. L'ex-chef de l'État a été reconnu coupable des délits de corruption et de trafic d'influence. Plus tard, son avocate a fait savoir qu'il comptait faire appel de cette décision. L'enquête s'accélère à Reims sur l'agression dont a été victime Christian Lantenois, photojournaliste du quotidien régional L'Union. La police a lancé un appel à témoins ce lundi pour tenter de déterminer les circonstances de cette violente agression commise samedi dans un quartier prioritaire de la ville et dont les auteurs n'ont pas été interpellés. Les tests salivaires déployés à l'école pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 seront réalisés par des personnels de santé et non par des enseignants. C'est ce qu'a assuré ce lundi le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lors d'un déplacement dans une école à Lavoncourt, en Haute-Saône. Monsieur Blanquer a également affirmé que la France avait tout à fait les moyens, en termes de tests et de moyens logistiques, d'arriver vers la mi-mars à l'objectif de 300 000 tests par semaine pour l'ensemble de la France. La Haute Autorité de Santé a annoncé qu'elle allait actualiser mardi son avis sur l'utilisation du vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans qui en sont privés pour l'instant, alors que des centaines de milliers de doses n'ont pas encore été utilisées. Cette annonce intervient alors qu'une étude de l'Université d'Édimbourg, publiée la semaine dernière, tend à confirmer l'efficacité du vaccin AstraZeneca, même chez les plus de 80 ans. Anne Hidalgo s'oppose au confinement le week-end à Paris. La maire de la capitale a fait part de son désaccord avec la proposition du gouvernement de confiner Paris et la Petite Couronne le week-end. Une proposition que je trouve difficile, dure, voire même inhumaine. C'est ce qu'elle a déclaré lors d'un point presse.
Le magazine des déchaînés du football, 20h04. On a parlé de Brest, on a parlé évidemment de Lorient. C'est juste un petit rappel pour Brest, hein, Brest et pour Lorient. Brest jouera mercredi, hein, ça va venir vite pour les prochains matchs en Ligue 1, comme en Ligue 2 d'ailleurs, puisqu'il y aura une journée cette semaine, la 28e journée je crois du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 cette semaine. Alors pour les clubs de Ligue 1, ce sera mercredi à 19h. Brest recevra Dijon et à 21h, les Merlus, Lorient se déplacera à Montpellier. Quant aux Guingampais, ils joueront eux, mais ce sera mardi. Hein, mardi soir. Ah oui, demain, ça vient vite. Demain soir, match au Roudourou, hein, pour les Guingampais qui recevront
Clermont, deuxième.
Un gros morceau, Guingamp qui n'arrive toujours pas à gagner. Guingamp qui fait souvent match nul, Guingamp qui ne perd plus énormément. Mais le drame, c'est que il y a des clubs en Ligue 2 qui sont dans le bas du classement et qui eux finissent par gagner de temps en temps.
Mais ils gagnent un match sur 5 ou 6, donc forcément quand ils gagnent, ça se rapproche.
Du coup, c'est voilà. Alors on n'est pas dans la zone rouge ni orange du côté de Guingamp, mais on a deux clubs qui sont juste derrière. Avant cette journée et avant ce match nul contre Sochaux à Sochaux, ce qui n'est pas un mauvais résultat, mais en tout cas avant cette journée, on avait un club qui était derrière avec deux points. Maintenant, on en a deux qui ont deux points. On a Pau surtout qui est gagné et qui menace maintenant cette équipe de Guingamp.
Oui, c'est toujours cette équipe de Guingamp qui se menace elle-même, Gaëtan, parce qu'elle ne gagne pas. C'est incroyable, cette incapacité. Et même, elle est rarement même en position de gagner des matchs. C'est fou.
C'est bien ça le problème.
Il y a eu contre Amiens, peut-être le 5 janvier, où il y a eu ce 2-1 et le but encaissé à la fin. Mais même dans ces matchs, elle revient pour égaliser. Contre Caen, c'était pas loin de basculer définitivement, mais il y a toujours ce moment de basculement qui n'arrive jamais, que ce soit dans les têtes, que ce soit sur le terrain, au classement. Et du coup, ça se tasse, ça s'enfonce. Ouais. Jusqu'où ? Là est notre inquiétude, Gaëtan.
Oui, c'est une inquiétude parce que... Alors, on a envie de dire que les autres n'avancent pas forcément beaucoup, mais
non,
quand
mais
ils
avancent,
pas souvent, mais quand ils avancent, c'est par 3 points.
Ouais.
Et Guingamp, c'est par 1 point. On voit Pau qui enchaîne quelques victoires.
On peut rappeler le classement pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément les chiffres en tête. Bon, Châteauroux est distancé, hein, 20e, pardon, Lanterne Rouge, dernier avec 18 points. Mais à la 18e et 19e place, on a deux clubs qui sont à égalité, qui ont 24 points. Et Guingamp qui est juste devant avec 26 points. points. C'est-à-dire que Guingamp a 2 points d'avance sur le barragiste, mais n'a aussi que 2 points d'avance sur la première équipe relégable. Donc, ça se complique. Quand on a 2 poursuivants, c'est plus difficile que contre un seul, parce que les chances que sur les deux clubs, il y en ait un qui gagne, sont deux fois plus importantes que si on n'a qu'un seul club derrière. Et là, il suffit d'une victoire pour que Guingamp soit rattrapé, puisque Guingamp ne gagne plus.
Oui, il faudra une victoire à un moment donné, effectivement, pour aller se sauver. Il en faudra même plus d'une. On dit souvent qu'il faut d'ailleurs 10 victoires pour se sauver. Guingamp n'en a que 4
en
27 matchs, mais c'est souvent ce qu'on dit. Alors, comme Guingamp a 14 nuls, peut-être que 8 victoires suffiront, mais moins de 8 victoires, à mon avis, ce ne sera pas de maintien.
Alors, d'ailleurs, on a fait un petit comparatif parce que notre réflexion était 14 matchs nuls en 27 matchs pour Guingamp. C'est donc plus de la moitié du temps pour en avant. Alors, c'est un record en Ligue 2 et même en Ligue 1, si je ne m'abuse. Je regarde en Ligue 1, oui, le plus haut total, c'est 12 pour Nantes. Mais on est allé chercher dans les 5 grands championnats européens, donc Espagne, Allemagne, Angleterre, Italie, pour voir s'il y a d'autres équipes qui font à peu près pareil. Mais on en a trouvé 5 entre les premières et deuxièmes divisions. En Allemagne, de toute façon, ils ont moins de matchs et là-bas, c'est tout ou rien. Ça gagne ou ça perd, mais il n'y a pas autant d'équipes qui font des matchs nuls. Il y a une autre équipe en deuxième division espagnole qui a fait 14 nuls en 27 matchs, c'est Fuenlabrada, mais eux, ils ont plus de victoires parce qu'ils sont 12e du championnat. En
Fuenlabrada.
En Liga, ils ont. J'espère que ma mère m'entend et va me saluer pour mon accent espagnol. En Liga, il y a Villarreal, 13 nuls en 25 matchs, c'est 53% du temps, sauf qu'ils gagnent beaucoup, ils sont 7e. En Angleterre, le record européen, c'est 16 matchs nuls en 33 matchs. C'est Millwall qui est 12e du championnat, mais eux, ils ont joué 6 matchs de plus, quand même, nos amis de la 2e division anglaise. Et alors, le record de toute l'Europe, c'est pas Guingamp. Guingamp est 2e en taux de matchs nuls. C'est Cosenza en série B en Italie, 14 nuls en 25 matchs, c'est-à-dire 56% du temps, cette équipe a fait match nul, elle n'a que 4 victoires comme Guingamp et 7 défaites du coup. Eh bien, comme Guingamp, elle est 17e du championnat, comme quoi ça n'avance pas à grand chose de faire match nul, quoique le contre-exemple qui vérifie la règle, c'est Empoli dans cette deuxième division italienne, 13 nuls mais 11 victoires et une seule défaite pour Empoli qui est du coup leader de son championnat.
Pas de défaite quasiment.
Pas de défaite, c'était une seule défaite. Et c'est vrai que Gaëtan, on en a reparlé récemment, mais ça nous rappelle la saison de la descente en national.
Exactement. Où Guingamp avait fait... j'y repensais.
Il y avait eu 16 nuls pour Guingamp, c'était le record dans toute son histoire en championnat. Et là, on en est à 14.
On est passé là, 14 nuls déjà. Et Guingamp qui avait gagné 9 matchs cette année-là.
Il
n'y avait pas eu la fameuse dixième. Et là, on se dit que Guingamp n'en est qu'à 4 victoires pour l'instant. Alors, malgré tout, Guingamp est 17e et n'est pas dans les 3 derniers. Malgré tout, il y a en plus cette 18e place qui pourrait permettre de sauver si malheureusement Guingamp terminait à cette position-là. Mais il n'empêche que avec aussi peu de victoires, c'est quasi impossible d'aller se sauver à l'arrivée. Il n'y a que Châteauroux d'ailleurs qui a gagné si peu, 4 victoires aussi. Tous les autres ont gagné au moins 5 matchs à l'image de Chambly. Et Pau est même désormais à 6 victoires dans cette saison.
Oh, vous imaginez, 6 victoires, c'est beau de gagner 6 matchs dans une saison de Ligue 2. Alors après, pour 2009-2010, c'était beaucoup plus serré et condensé, hein, parce que Guingamp était descendu à 43 points quand même saison-là.
Là, ce sera peut-être serré et condensé, mais avec beaucoup moins de points.
Il faudra peut-être moins de victoires finalement pour se maintenir. Voilà. On l'espère pour les Guingampais. Alors, comme au match aller, on est désolé, chers amis auditeurs, mais on ne vous a pas fait de résumé du match parce que franchement, il n'y a eu que quoi
0-0 et très peu d'occasions.
Ça arrive souvent cette année. Hein.
Je crois que c'est la 3e fois qu'il n'y a pas de résumé. Mais au match aller, si on avait mis le coup de sifflet final, on avait dit voici la meilleure action du match et ça a été le coup de sifflet final. On ne va pas la faire 2 fois non plus. Mais oui, c'est vrai que c'était très très compliqué encore de trouver ces marques pour cet en avant dans une configuration assez défensive. On l'a vu notamment, Gaëtan, dans les choix de Frédéric Bompard, notamment dans ce 4-4-2. Alors on se dit, ça y est, il y a 2 attaquants. Mais quand vous voyez déjà le double pivot, ce qu'on appelle les 2 milieux axiaux, c'était Romao Fofana, qui sont plus des ratisseurs, des récupérateurs que des créateurs. Le créateur, c'est Mshangama, qui était lui sur le côté gauche. L'Ivolant à droite, on le connaît, qui est capable de faire beaucoup d'efforts pour défendre. Le plan, on l'a très vite senti, Gaëtan, c'était de ne pas prendre de but.
c'est ça, de ne pas perdre à Sochaux. Sochaux qui perd d'ailleurs très peu de matchs hein, cette saison. C'est une équipe solide dans ce championnat qui fait aussi beaucoup de matchs nuls. 12 matchs nuls, seulement 2 de moins que Guingamp. C'est une des bonnes défenses aussi de ce championnat. Puis bah, voilà, Guingamp qui était finalement allé chercher, je pense, ce qui était l'objectif hein, de ce déplacement. Alors malheureusement, il en faudra plus pour se sauver, on le disait à l'instant. Mais je pense qu'effectivement, dans les plans, c'était déjà d'aller chercher ce point à Sochaux.
Voici le plan raconté par l'entraîneur Frédéric Bompard.
Le 4-4-2 aujourd'hui, il était différent de celui de la dernière demi-heure, de la semaine dernière, face à Caen. Il était un peu moins offensif, on va dire. Donc, je pensais plus que ça se serait joué sur une équipe qui allait faire une erreur dans l'axe, perdre un ballon, justement, malencontreusement remis, compte tenu de l'état du terrain ou sur un coup de pied arrêté.
Voilà, on cherchait l'erreur, mais cette ouais. erreur n'est jamais venue de la part ni de l'une ni de l'autre. Hein,
ouais, puis c'est comme stratégie, c'est un petit peu réducteur quand même, parce que s'il faut attendre l'erreur et non pas se procurer quelque chose de son côté, être davantage entreprenant comme on l'a si souvent réclamé cette saison. Bon, bah, ça amène à ce genre de triste 0-0.
Mais c'est vrai qu'on se demande comment Guingamp va se sauver, parce que, quel est l'ingrédient à mettre, parce que, pour prendre l'exemple de Brest, qui, quand dans un moment très faible en Ligue 1, ils avaient décidé de continuer à attaquer, à ne pas se renier, et oui. ça avait marché. Là, c'est vrai qu'on avait envie de revoir un 4-4-2, et Bompard le dit, c'était pas le même 4-4-2 que contre Caen, parce que, souvenez-vous, c'était Pierrot Gomis devant, oui, mais à gauche, on avait Faiton, et à droite, on avait Ntep. Donc, au niveau création, percussion, dribble, offensif, hein. Voilà, c'était vraiment 4 joueurs effectivement offensifs. Lam, Shangama, Livolan, c'est plus des travailleurs sur le couloir. Voilà, il n'y a pas assez d'ambition, il faudrait plus d'ambition, mais est-ce que dans les têtes, on est capable de jouer avec autant d'ambition et plutôt se sécuriser? Voilà, c'est tout l'équilibre que Guingamp n'a toujours pas trouvé alors que nous sommes le 1er mars déjà. Donc le 4-4-2, on y vient avec un des hommes à qui doit profiter ce schéma, c'est Yannick Gomis, le meilleur buteur de Guingamp, que l'on voit souvent bien meilleur lorsqu'il est soutenu que quand il est tout seul devant. Comment s'est-il senti? Réponse de l'attaquant guingampais.
Ouais, je trouve que c'est un système pas mal, faut vraiment bien le maîtriser. Mais après, je trouve pas qu'on a eu du mal à développer quelque chose. Certes, comme je vous l'ai dit, le terrain qui nous a pas facilité la chose hier. Mais honnêtement, je trouve qu'on s'est senti pas mal, parce que avec les déviations de Franzi et les ballons en amorti, on a pas mal combiné un peu. Mais certes, comme vous dites, le terrain il était grand et on a travaillé en équipe, on a travaillé en binôme. Ce que recherchait le coach, c'est-à-dire les deux attaquants, les deux joueurs de couloir et les deux 6 pour pouvoir avancer et profiter d'une erreur de l'adversaire. Car hier, on espérait avoir plus d'occasions, mais vu la physionomie du match, c'était impossible. Mais je trouve que c'est un système qui est pas mal et je me sens bien dedans.
Voilà, ce 4-4-2 face à une équipe qui n'a pas fait d'erreur. Et pourquoi ça a été compliqué? Eh bien, parce qu'il y avait aussi ce terrain, cette pelouse qui n'a de pelouse que le nom. Ils s'y attendaient hein, déjà, les Guingampais, on l'avait vu sur les autres matchs du côté du staff de Guingamp. Et hélas, les craintes ont été là, hein, ont été vérifiées, parce qu'effectivement...
Il n'y a pas eu de surprise.
Ah non, les occasions ont été très rares, parce que les enchaînements étaient très compliqués à trouver, en plus d'une peut-être frilosité tactique, d'un manque de confiance aussi. Et vous rajoutez en plus le mauvais état du terrain, parce qu'à Guingamp, le terrain est très beau et c'est pas souvent mieux non plus. Hein. Mais voilà, ça n'aidait pas. Voici l'avis de Yannick Gomis sur ce terrain compliqué à Bonal.
Un match difficile, terrain compliqué, on n'arrivait pas à produire du jeu. Je pense que ça s'est vu avec les deux équipes. On essayait de jouer devant et essayer de gagner les deuxièmes ballons ou gagner les duels pour pouvoir les prendre à défaut. Mais voilà, comme je dis, c'est incroyable, parce que pour une pelouse de Ligue 2 comme ça, c'est très 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 dur.
C'est pas au niveau, hein. Franchement, c'était pas au niveau d'un terrain professionnel, ce terrain de Sochaux qui nous a rappelé le roudourou des grandes heures à côté de la tribune présidentielle. Une petite pause, la dernière, dans ce magazine des déchaînés du football, et puis on termine sur ce 0-0 donc entre Sochaux et Guingamp. On parlera aussi un petit peu d'un autre 0-0, celle des filles, mais elles sont bien mieux au classement en première division.
Bré-Sud.
Le bonheur plein sud.
Alors ma chérie, tu lézardes sous ta pergola à Bré-Sud ?
Tout à fait mon cœur. C'est le paradis. Tu peux baisser les stores ?
C'est comme si c'était fait.
Un peu moins, un peu plus ?
Oui, voilà.
Oh, voilà, c'est parfait. Ah. T'irais pas me chercher un jus de fruits ?
Ah, il y a beaucoup d'options chez Bré-Sud, hein, mais l'option jus de fruits, je ne crois pas.
À Bré-Sud.
Le bonheur plein sud.
Vous écoutez Radio Bonheur avec le magazine des déchaînés du football. Il est 20h18. Pendant quelques minutes encore, on parle de Guingamp, des Guingampais. Les Guingampais qui, on le rappelle, donc joueront demain soir avec la réception de Clermont. Et dans le même temps, Chambly jouera à domicile contre Troyes. Troyes, c'est un gros morceau hein, de cette Ligue 2. Mais dans le même temps aussi, Pau jouera à domicile contre la Lanterne Rouge, contre Châteauroux. Voilà, les choses sont dites. Ça veut dire qu'il y a un vrai risque demain soir que Guingamp se retrouve 18e. Parce que si Pau gagne contre Châteauroux, sauf si Guingamp réussit l'exploit contre Clermont, Guingamp pourrait se retrouver demain à la 18e place.
On va faire notre Christophe Pélissier, hein, oui, mais le championnat ne finit pas à la 28e
journée. Non, bien sûr. Et puis,
l'année dernière,
et puis il peut y avoir des surprises. Châteauroux peut gagner à Pau.
Par contre, ce qu'on avait dit samedi, c'est que ça ressemble à la dernière chance pour Châteauroux, ce match-là, pour se remettre un petit peu dans.
Mais quand on les voit quand même, j'ai pas vu beaucoup de matchs avec Châteauroux, mais enfin. Quand on voit la façon dont ça se passe avec Châteauroux depuis quelques semaines,
compliqué.
Je pense qu'ils ont déjà abandonné hein, les joueurs de Châteauroux.
Il me semble, je vais essayer de regarder, mais il me semble que l'avant-dernière journée, alors je sais pas si on va avoir le temps de retrouver ça, mais je crois qu'il y a un Guingamp Châteauroux et je crois qu'il y a un Chambly Pau aussi. Il faudra regarder, mais en tout cas Gaëtan. Il faut vraiment prendre conscience que ça joue le maintien à Guingamp. C'est vraiment ça a été une crainte pendant un moment et on est toujours pas
franchement
sûr.
Parce que là, même un match nul demain, ce sera peut-être pas suffisant. Alors peut-être à la différence de but, hein, parce que Pau n'a pas une bonne différence de but, mais voilà, on va se retrouver avec le même nombre de points que le 18e.
Oui, après ce qui peut aider dans cette Ligue 2, c'est beaucoup moins le cas en Ligue 1, mais en Ligue 2 ça peut l'être, c'est finalement les équipes de bas de tableau peuvent accrocher des points contre celles du haut. On voit Rodez qui a été gagné à Auxerre, qui avait battu Toulouse juste avant, qui a gagné aussi contre Clermont il y a quelques semaines.
Brest aussi a pris des points hein, contre Monaco, contre Lille.
Oui, mais Brest n'est pas
contre
une équipe de bas de tableau, c'est quand même une équipe l'instant de ventre
mou. Mais Lorient a gagné contre le Paris Saint-Germain.
Oui, mais ça arrive une fois, mais
c'est
tous les autres,
fréquent,
Nîmes,
ouais.
Nantes, Dijon par exemple, ils ont tous perdu contre les équipes du haut tableau ou quasiment tous leurs matchs. En Ligue 2, c'est nettement moins souvent. On voit d'ailleurs Guingamp hein, qui a battu Auxerre à l'aller, qui a fait nul au retour, qui a été prendre un point à Clermont à l'aller, il ne faut pas l'oublier, qui a été prendre un point aussi à Toulouse. Donc Guingamp a réussi à accrocher quand même les gros dans cette saison. Pas souvent à gagner, ça c'est sûr, mais à accrocher. Il y avait une victoire aussi contre Grenoble, on s'en souvient.
Les meilleurs matchs, c'est contre les gros. Hein.
Oui, les meilleurs matchs, c'est contre les gros. Et dans cette Ligue 2, on sait qu'il y a parfois des ouvertures face à ces équipes-là. Et surtout que Guingamp préfère jouer les équipes qui ouvrent le jeu, comme c'est le cas de Clermont notamment.
Moi, je me souviens, je crois que c'est vous, hein, Gaëtan, qui m'aviez dit, alors que Guingamp avait commencé par 6 défaites en Ligue 1 en 2018-2019, vous m'aviez dit, oui, mais en Ligue 2, c'est, si ça arrive en Ligue 2, ça peut se rattraper. En Ligue 1, c'est beaucoup plus difficile.
Ouais,
vous avez eu raison, 1, comme beaucoup de fois.
Sur ce coup-là, malheureusement, oui.
On rappelle Clermont. Alors, Clermont n'est pas la meilleure équipe, c'est 3, hein, la meilleure équipe pour l'instant de ce championnat de Ligue 2. Mais Clermont, qui sera donc le prochain adversaire des Guingampais demain soir.
Ils sont deuxièmes.
Clermont, ils sont deuxièmes. Ça veut dire que potentiellement.
Ils ont mis 4 à Valenciennes ce week-end.
C'est une équipe de Ligue 1, presque déjà. Alors, ils ont perdu à Rodez, ils ont perdu à Toulouse, c'est vrai. Mais là, ils sont sur 3 victoires consécutives. Et ils font très, très rarement match nul, contrairement à Guingamp. C'est une équipe qui ne fait fait quasiment jamais match nul. Je suis en train de regarder leur dernier match nul. Bah tiens, c'était contre Sochaux, 0-0, bah, comme Guingamp.
Ouais, comme à l'aller d'ailleurs, hein, 0-0 entre Clermont et Guingamp.
Ouais, c'est une équipe qui fait très très peu de matchs nuls. Et c'est une équipe souvent qui gagne ou qui perd, mais qui gagne beaucoup plus souvent.
Et Clermont qui en plus a gagné 4-0 contre Valenciennes ce week-end.
Ouais, ouais.
Valenciennes qui était à 10 au bout de 5 ou 6 minutes de jeu. Ils ont joué tout le match à 11 contre 10, les Clermontois. Ils ont marqué très vite. Et derrière, du coup, Pascal Gassien, l'entraîneur de Clermont, qui en a profité pour faire ses changements aussi rapidement en vue, évidemment, du match à Guingamp.
Ouais, Clermont, ce qui est bien pour Guingamp, c'est que Clermont a quand même du mal à l'extérieur. Hein. Clermont a beaucoup plus de mal à prendre des points à l'extérieur qu'à domicile. Alors, ils ont gagné leur dernier match à Ajaccio à l'extérieur. Mais la journée d'avant, ils ont perdu à Rodez 2-0. La journée encore d'avant, ils avaient perdu à Toulouse 3-2. La journée encore d'avant, ils avaient fait match nul contre Grenoble. Et le match encore avant, ils avaient fait match nul contre Sochaux. Donc sur les 5 derniers matchs, une seule victoire pour Clermont. Ouais. C'est moins facile pour Clermont à l'extérieur. À domicile, c'est vrai que ça joue bien. Ça gagne quasiment à tous les coups. Mais à l'extérieur, pour Clermont, c'est nettement moins facile.
Ouais, c'est la troisième meilleure équipe à l'extérieur, mais 19 points pris contre 33 à la maison. Donc évidemment, ça va beaucoup mieux à domicile pour Clermont. Peut-être une opportunité pour Guingamp. On essaye toujours de trouver des motifs d'espoir.
Ça fait 3 ans qu'on en cherche à chaque fois. On a eu aussi une remarque d'un auditeur qui nous disait à quand une statistique positive. Vous savez que chaque match, avant chaque match, on met une statistique. Mais le problème, c'est que, chers amis, on en a quasiment
pas.
C'est terrible. Non. Parce qu'après, si on met parfois aussi on peut se rappeler d'un ancien match, d'ailleurs j'ai un petit exemple, on vous en parlera demain, d'un ancien Guingamp Clermont qui avait relancé Guingamp, et on a dit il faut arrêter de vivre dans le passé. Oui, là il n'y a pas l'équilibre, il est dur aussi à trouver. On espère qu'il y aura des statistiques un peu plus positives pour les Guingampais bientôt. En tout cas, là, ce que l'on peut reconnaître, c'est que Guingamp a bien défendu à Sochaux ce week-end, aucun but encaissé, 8e clean sheet, 8e match sans prendre de but dans cette saison. La défense a répondu. Écoutez à ce sujet l'entraîneur Frédéric Bompard.
Oui, surtout lorsqu'on est à l'extérieur. Donc, vous savez, Sochaux, c'est une équipe quand même qui vous met de l'impact physique. Il y avait quand même quelques bestias en face de nous aujourd'hui. Donc, c'est une équipe qui est vraiment pas facile à manier, pas facile à jouer. Qui plus est, c'est une équipe qui restait quand même sur une série très positive. Donc voilà, on emmenait, je ne veux pas dire qu'on emmenait pas large avant de jouer, mais on savait que ça allait être pas facile. Je ne sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point, toujours est-il que c'est un point. On aimerait tant prendre 3. Alors moi, la chose que j'ai dit aux garçons, j'ai dit écoutez, de toute façon, il n'y a qu'une chose à faire maintenant, c'est bien récupérer et mettre tout en œuvre pour battre Clermont-Ferrand. Mardi, qui est vraiment une très bonne équipe de Ligue 2.
Ah, clairement. C'est une bonne équipe de Ligue 2, puisque pour l'instant, ils occupent une place qui leur permettrait d'accéder à la Ligue 1.
Effectivement, et pour ce faire demain, il y aura encore pas mal d'absents quand même pour Guingamp. Sampaio, Ba, Entep, Roux, Valdivia et Boa, ça c'est de plus longue date. Rodelin et Ndenbe non plus ne seront pas là du coup. Quelques jeunes arrivent, Adi Camara, défenseur central, Johan Katlin aussi, issu de la réserve, qui est un milieu excentré, assez virevoltant, hein. Vous me coupez si je me trompe, Gaëtan. Voilà, pour amener peut-être un peu plus de folie sur les ailes guingampaises. On a quelques questions sur le direct sur Facebook, sur la page des déchaînés du football Guingamp. Clément qui nous dit: pensez-vous que l'absence du public à domicile pèse plus sur Guingamp que sur d'autres équipes? Clairement, oui, pour moi. Alors, je dis pas que c'est l'une des seules raisons, mais je pense que c'est le cas pour Guingamp et pour toutes les autres équipes qui ont un public fort. Lens, qui a
beaucoup
du mal à domicile
à
cette saison.
Il y a beaucoup d'abonnés. Enfin, en temps normal, il y a beaucoup d'abonnés à Guingamp. C'est vrai que c'est plus difficile pour Guingamp que pour d'autres, en tout cas.
Ouais, que pour Clermont, par exemple, hein, où Clermont, il n'y a pas énormément de monde au stade. Je crois qu'ils font des 2500 de moyenne, Clermont.
Non, parce que là, on n'arrête pas entre Clermont et Clermont.
C'est ça.
Non, en Ligue 2, Caen peut être dans ces équipes-là.
Peut-être Toulouse aussi, quand même, qu'on peut mettre dans ce panier-là pour une équipe de Ligue 2.
Valenciennes,
voilà. Il y a quelques équipes qui peuvent ressortir à ce niveau-là. Mais oui, ça pèse plus sur ces équipes-là que sur d'autres. Il y a même des équipes en Ligue 2 où il n'y a pas de COP. Hein. On pense à Châteauroux, par exemple. J'avais été surpris l'année dernière en y allant. Il n'y avait pas de COP à Rodez non plus. Il y a une petite fanfare de temps en temps qui se met en route. Mais il n'y a pas de COP à proprement parler. C'est assez étonnant. Et ça pèse peut-être moins sur ces équipes-là, l'absence du public.
Mais ça n'explique pas tout non plus.
Mais ça n'explique pas tout.
Non. C'est un détail, on va dire. Parce que toutes les équipes jouent sans supporters. Et cela depuis un petit moment, depuis des mois. D'ailleurs, juste un petit mot pour clôturer sur Guingamp et sur le fait que Guingamp n'est pas de supporters, comme toutes les autres équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 et des autres clubs. Vous nous l'avez dit, Pierre, je crois, hier. Il y a peut-être une possibilité pour que dans les prochaines semaines, on retrouve alors une petite jauge, hein, ce sera sûrement 20-25% de la capacité des stades, avec sans doute aussi des restrictions, des éloignements entre les personnes ou les groupes de personnes, les foyers. C'est à l'étude, ça pourrait venir dans les prochaines semaines, courant mars.
Ça pourrait venir, mais tout est encore, évidemment, rien ne peut être définitif.
On pense aux abonnés, parce que moi, quand je pense aux abonnés de Guingamp, je me dis quand même, les gens qui supportent Guingamp et qui sont bien souvent abonnés, forcément, ça leur manque.
Bien sûr, et aux autres aussi, ceux qui ne sont pas abonnés et qui pourraient, et qui aiment venir assez fréquemment, dans les autres clubs aussi. Voilà, on espère. C'est à l'étude, en tout cas, d'avoir peut-être des matchs tests, des clubs tests. Gaëtan, ça va être le cas en Espagne. Je crois que c'est c'est pas Grenade, c'est une autre équipe qui commence par un G. Je vais la retrouver. C'est pas Rétafé, c'est en deuxième division. Mais je vais retrouver. Mais c'est un petit
rayon
de soleil peut-être. Non, c'est pas Riron, c'est
verra.
Pas Valladolid non plus.
On verra.
Je vais retrouver.
On parle des filles pour finir, des filles de Guingamp.
Oui, qui ont été chercher un point sur la pelouse du Paris FC en championnat, 0-0 comme les garçons, donc un match nul qui permet aux Guingampais de se diriger encore un peu plus tranquillement vers le maintien. Les filles qui comptent actuellement 20 points dans ce championnat de première division féminine, on sait qu'il en faut en général 22 pour se sauver, c'est la barre nécessaire. Les filles qui ne joueront pas ce week-end parce que ce week-end devait être un match de Coupe de France, mais la Coupe de France féminine, c'est pas comme les garçons, elle est à l'arrêt, là, elle est un petit peu bloquée et donc pas de prochain tour pour l'instant, et donc pour En Avant, hein, qui est qualifié pour les 16e, non, les 8e même de finale, et donc le prochain match pour les joueuses de Frédéric Biancalani, ce sera le week-end suivant contre Issy les Moulineaux, premier relégable de ce championnat, Issy les Moulineaux, et donc en cas de victoire, Guingamp là prendrait vraiment bien le large avec ce bas de tableau, se mettrait définitivement à l'abri une bonne fois pour toutes. Les Guingampaises qui sont 5e de première division.
Quel dommage qu'il n'y ait pas d'Europa League en féminine.
Oui, c'est dommage, il n'y a que les 3 premières places qui offrent des qualifications en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. La première place actuellement occupée par le Paris Saint-Germain, c'est une petite surprise aussi cette année.
Il y a Lyon-PSG,
directement
sur le prochain match, prochaine journée.
Voilà, et Lyon donc qui est deuxième avec un point de retard, juste devant Bordeaux, il y a 13 points d'écart par contre entre Lyon et Bordeaux. Guingamp qui est cinquième avec 20 points et qui compte donc pour l'instant 10 points d'avance sur la zone rouge. Donc Guingamp est tranquille et pourrait l'être définitivement en cas de victoire lors du prochain match contre Issy les Moulineaux, pas le week-end prochain mais celui d'après. Ce sera un match à l'Académie pour les Guingampais à domicile donc ce jour-là.
C'était Gérone, le club espagnol. J'ai dû regarder sur mon téléphone et il n'arrivait pas. Ils ont un nom en espagnol, c'est Girona et Gérone, voilà. C'est pas revenu. Et dernière précision, parce qu'il est 20h30 passé, la 37e journée, il va falloir s'accrocher. Hein. Guingamp-Châteauroux, Chambly-Pau et Rodez-Nancy, qui sont pas très très loin non plus. Donc ça va peut-être
évoluer aussi, parce que dans 10 journées, on n'est pas sûr de retrouver.
On n'aura toujours pas gagné, on sera condamné. Hein, mais peut-être qu'on sera 10e aussi.
Match super important demain soir en direct sur Radio Bonheur pour la 28e journée du championnat de Ligue 2. Le match est à 20h.
20h, alors là c'est 20h.
Je ne sais jamais.
On ne sait plus. Et bientôt ça va être que 20h tout le temps.
Ouais, mais enfin, je crois que c'est encore 19h la semaine d'après. Enfin, ça,
oui, mais ça sera la dernière fois.
Ça bouge beaucoup. Bon, 20h demain soir, prise d'antenne à 19h30 au Roudourou pour ce match important avec la réception de Clermont. Et puis les Brestois joueront eux mercredi soir avec la réception de Dijon, pendant que les Merlus se déplaceront à Montpellier mercredi soir également. Match à 21h pour Montpellier-Lorient et à 19h pour Brest-Dijon. Voilà. Super, on n'a aucun match en même temps. Merci messieurs, merci Sébastien qui
bravo
s'occupait de la vidéo, de la page Facebook des Déchaînés du Football pour les images. Merci Pierre et merci Gaëtan et bonne soirée. Et puis alors demain, qui est-ce qui commente le match? Moi. C'est Pierrot qui commente le match demain.
Avec plaisir, un Guingamp Clermont, là on va y aller, un 0-0 à la mi-temps et on verra ce qui se passe en seconde.
Merci messieurs, bonne soirée.
À demain.
Bonsoir.
Vous écoutez Radio Bonheur à Saint-Brieuc sur 99.1, à Lorient sur 93.3, à Guingamp sur 90.1, à Lannion sur 99.0, à Châteaulin sur 104.0, à Carhaix sur 99.0, à Saint-Malo sur 96.7 et à Brest sur 95.9.